Radio Prague, les informations.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Le gouvernement valide la loi sur le logement social. La République tchèque soutiendra la candidature de Donald Tusk à la présidence du Conseil européen. Et puis ce jeudi débutera le premier festival du film tchèque en Malaisie. Le gouvernement de Bohuslav Sobotka a validé ce mercredi la loi sur le logement social, une législation attendue depuis de nombreuses années. Ce texte qui vise, selon ses auteurs, à combattre la pauvreté doit désormais être examiné par les parlementaires et il n'est pas certain que la Chambre des députés puisse se prononcer avant la législatif de l'automne prochain. D'après ce texte de loi, la municipalité tchèque devrait contribuer sur une base volontaire à la mise à disposition de logements sociaux. Dans le cas où elle n'agirait pas dans ce sens, le Fonds national pour le développement du logement leur viendrait en aide. Si la loi est effectivement votée, les premières demandes pour obtenir un logement social pourraient être soumises dès la mi-2018. La République tchèque soutiendra la candidature de Donald Tusk à un second mandat de président du Conseil européen. Selon le Premier ministre Bohuslav Sobotka, le gouvernement tchèque est en principe content avec son travail. La question de la reconduction de l'ancien chef du gouvernement polonais doit être décidée par le président et le Premier ministre des États membres de l'Union européenne. Le prolongement de son mandat est toutefois fortement probable vu le soutien dont il bénéficie parmi les pays membres. Le premier mandat de Donald Tusk à la tête du Conseil expirera en mai prochain. Le taux de chômage s'est établi à 5,1% en février en République tchèque, en baisse de 0,2 points par rapport au mois précédent. Environ 380 000 personnes étaient sans emploi, soit le chiffre le plus bas depuis février 2008. Dans le même temps, selon les données publiées ce mercredi par le Bureau du Travail de République tchèque, le nombre d'offres d'emploi est en hausse. Il y avait plus de 143 000 postes vacants fin février dans le pays. D'après l'institution tchèque qui s'apparente à Pôle emploi en France, la baisse du chômage est due à la croissance de l'économie tchèque ainsi qu'à l'arrivée d'une météo plus clémente. Les beaux jours reviennent et cela impacte positivement l'activité dans des secteurs comme la construction, les exploitations forestières ou bien le tourisme. Afin d'égaliser la qualité de l'éducation dans le pays, les écoles seront financées à partir du mois de septembre 2018, non plus selon le nombre d'élèves, mais en fonction du nombre d'heures enseignées. L'amendement à la loi scolaire qui contient entre autres ce projet de réforme du financement a été approuvé ce mercredi par le Sénat dans la version présentée par les députés. Les sénateurs ont ainsi donné leur feu vert également à l'introduction de l'épreuve obligatoire de mathématiques au baccalauréat, dont la suppression avait été recommandée par le comité sénatorial pour l'éducation. La République tchèque ne fait pas partie des pays progressistes, modernes et cultivés au sein de l'Union européenne en matière de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est à la traîne des autres pays membres, notamment en raison des inégalités de salaire. Cette mauvaise position des femmes se reflète également dans la situation économique du pays. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Lubomir Zaorálek, lors de son discours d'ouverture de la conférence 22% pour égalité qui a eu lieu ce mercredi à Prague, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Plus de détails sur le sujet dans la rubrique « Faits et événements ». L'ambassade de la République tchèque à Kuala Lumpur organise du jeudi au dimanche le tout premier festival du film tchèque en Malaisie. Dans le cadre de cet événement, la plus grande chaîne de cinéma malaisienne, Golden Screen Cinemas, proposera une trentaine de projections de 5 films tchèques, dont notamment Kolia, oscarisé en 1997, Mavomodri Sviet, Le monde en bleu foncé, ou Obecná škola, l'école élémentaire. L'objectif du festival est de présenter la République tchèque et sa création cinématographique au public malaisien ainsi que de renforcer la compréhension mutuelle. On termine comme toujours avec un mot de météo. Le temps est couvert et nuageux ce jeudi, jour de la fête de Františka. La pluie reste possible sur l'ensemble du territoire tchèque. Quelques éclaircies peuvent toutefois apparaître, notamment dans la soirée. Les températures maximales vont de 7 à 11 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Alžbeta Ruškova. Merci pour votre attention et on continue tout de suite avec Magdalena Hrozinková. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, merci tout d'abord à Alžbeta Ruškova pour son bulletin d'information et bienvenue, chers amis, à l'écoute de ce programme préparé pour vous par la rédaction française de Radio Prague. peu visible, la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes en République tchèque comme en France et un peu partout en Europe d'ailleurs. Nous allons nous pencher sur ce sujet dans un instant. Nous ouvrirons ensuite une page gastronomique et touristique puisque nous parlerons des 3 restaurants pragois qui conserveront leur étoile Michelin en 2017. Vendredi prochain, 69 ans se seront écoulés depuis la mort suspecte de Jan Masaryk. La personnalité de l'ancien ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères est au cœur non seulement d'un film qui vient de sortir en salle tchèque, mais aussi de notre rubrique historique. Très bonne écoute. C'est un phénomène que l'on constate partout en Europe et qui s'avère tout aussi inquiétant en République tchèque, pays où les inégalités salariales entre hommes et femmes sont parmi les plus marquantes à l'échelle européenne. Les femmes tchèques sont 2 fois plus exposées au risque de tomber dans la pauvreté que les hommes. Cet écart est particulièrement marqué chez les personnes âgées et les familles monoparentales, comme le constate dans son rapport publié à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la branche tchèque de la plateforme Social Watch. En République tchèque, les femmes ont la charge de 87% des familles monoparentales, dont le nombre total est estimé à 180 000. Près de 20% de ces familles avec un seul parent sont menacées de pauvreté. Selon les statistiques, les mères sans conjoint disposent souvent de faibles revenus et sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale. En même temps, elles sont plus nombreuses à exercer une activité professionnelle que les femmes vivant en couple. Eliska Kodesheva est psychologue et directrice d'Aperio, une ONG qui apporte son soutien aux familles, en particulier aux mères en difficulté.
Les mères sans conjoint ont souvent recours à des emplois mal rémunérés. Le travail occasionnel, de petits boulots temporaires ou encore le travail à mi-temps, elles sont nombreuses à travailler comme serveuses, caissières dans les supermarchés ou aides-soignantes. Leur objectif est d'accomplir au mieux les 2 tâches, s'occuper de leurs enfants et assumer les dépenses du foyer. Ce qui est frustrant, c'est qu'elles passent quand même la majorité de leur temps au travail, sans pour autant gagner bien leur vie et en sachant qu'elles négligent forcément un peu leurs enfants.
Les mères des familles monoparentales non diplômées qui s'adressent fréquemment à l'organisation Aperio sont confrontées à un risque accru de pauvreté. Eliška Kodesheva.
Le système tchèque d'allocation sociale n'est pas vraiment efficace dans de telles situations. Près de la moitié des mères seules qui touchent des prestations sociales sont menacées de pauvreté. La seule solution à ce problème est de chercher une assistance, d'essayer d'évoluer sur le plan professionnel et personnel et de trouver un bon emploi.
Bon emploi n'est cependant pas toujours synonyme de rémunération adéquate, en tout cas pour les femmes. En République tchèque, celles-ci continuent de toucher un salaire inférieur de 22,5% en moyenne à celui de leurs collègues masculins. Ces inégalités salariales se prolongent évidemment lors de la retraite. Comme l'explique Markéta Motlova de l'ONG Forum 50%, membre de la plateforme Social Watch.
Les femmes retraitées touchent des pensions inférieures d'un cinquième aux pensions de retraite des hommes. Cette disparité est due au salaire moins élevé des femmes et au fait que ces femmes consacrent une partie de leur vie active à des travaux non rémunérés. Elles s'occupent des enfants et souvent des membres âgés et malades de leur famille. Aussi, un travail à temps partiel qui permette aux femmes de mieux harmoniser leur vie professionnelle et familiale ne devrait représenter qu'une solution temporaire. Là encore, les femmes employées à mi-temps gagnent moins et elles seront désavantagées à la retraite.
Les femmes retraitées âgées de plus de 65 ans constituent un groupe particulièrement vulnérable en termes de risque de pauvreté. Actuellement, 20% des femmes tchèques de cette tranche d'âge sont menacées de pauvreté contre 9% des hommes, et ce alors qu'une étude de l'organisation Gender Studies effectuée en 2013 faisait état de 15% des femmes retraitées isolées et démunies contre 9% des hommes âgés dans une situation précaire. Finalement, l'organisation Social Watch alerte aussi sur le problème que constituent les violences faites aux femmes. Selon son rapport, près d'un tiers des femmes âgées de plus de 18 ans ont déjà été victimes de violences domestiques. En République tchèque, cela correspond à une population d'1 200 000 femmes. Trois restaurants pragois conserveront leur étoile Michelin en 2017. Par ailleurs, une 7e adresse de la capitale tchèque s'ajoutera à la liste des établissements dits bip gourmands, à savoir des restaurants proposant un excellent rapport qualité-prix. Si Prague n'est pas devenue une destination gastronomique à proprement parler, on y mange néanmoins de mieux en mieux depuis quelques années, comme nous le raconte Guillaume Darquet.
Comme chaque année, la 36e édition du guide Michelin Main Cities of Europe, dans laquelle figurent des restaurants de 44 villes d'une vingtaine de pays, donne un aperçu de la diversité culinaire du vieux continent et du dynamisme de la scène gastronomique européenne. Le constat vaut aussi pour Prague et plus généralement la République tchèque. Certes, la majorité des touristes étrangers ne viennent pas encore à Prague pour apprécier la finesse de la cuisine locale, mais l'offre gastronomique ne cesse de s'améliorer. Les bons plans y sont de plus en plus nombreux. Organisatrice d'un tour gastronomique pour les étrangers justement de passage à Prague, avec plusieurs étapes et dégustations de plats authentiques, Mirka Kostelkova avait confirmé cette tendance à Radio Prague il y a quelques temps de cela.
C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis quelques années. Je dirais que les Tchèques eux-mêmes, ils deviennent de plus en plus intéressés par la qualité de la nourriture, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc avant, les gens, ils voulaient payer vraiment un prix le plus bas possible, puis d'avoir la quantité la plus grosse possible également. Donc ça change, je suis très contente parce que ça permet aussi à de nouveaux endroits d'ouvrir, enfin que ce soit des restaurants, des boutiques ou autres, parce qu'il y a de la clientèle. Avant, ça ne serait pas possible.
L'Alkron, la dégustation bohème bourgeoise, souvent désignée comme le meilleur restaurant en République tchèque, et le Field sont les trois restaurants pragois qui ont conservé leur étoile Michelin pour cette année. Trois adresses qui proposent essentiellement des plats traditionnels tchèques, réadaptés et modernisés. Étoilée depuis 2012, l'Alkron est une des valeurs sûres de la scène gastronomique tchèque de ces dernières années, comme s'en félicite son chef cuisinier Roman Polus, dont la figure est désormais bien connue du grand public.
La première année, lorsque deux restaurants avec des cuisiniers tchèques avaient été récompensés d'une étoile, l'intérêt des médias et de l'ensemble de la communauté gastronomique avait logiquement été plus important. Le soufflet est quelque peu retombé ces dernières années, mais c'est normal car ce n'est plus une nouveauté. Pour nous, l'essentiel est de conserver cette étoile car cela ne coule pas de source. C'est un travail de tous les instants, comme disent les sportifs. Le plus dur n'est pas de gagner une fois, mais de confirmer. Quand on voit le nombre de restaurants de qualité qui existent ou sont ouverts dans les pays environnants ou même ici en République tchèque et qui s'efforcent eux aussi d'obtenir une étoile, on se dit qu'il faut apprécier cette étoile à sa juste valeur.
Concernant la République tchèque, la seule nouveauté dans le guide 2017 est donc l'apparition d'un nouvel établissement, Bip Gourmand, une catégorie qui privilégie le rapport qualité-prix et qui ravit davantage un public soucieux de se faire plaisir avec un budget maîtrisé. Situé à Karlín, un quartier en vogue de Prague, l'ESKA est donc la 7e adresse tchèque à apparaître sur la liste, un succès qui peut être qualifié de fulgurant, du moins si l'on en croit son cuisinier, Jan Mali.
Nous sommes ouverts depuis 1 an et 5 mois, donc faire impression sur les commissaires du guide Michelin en si peu de temps est, je pense, un vrai succès. Nous n'avons pas secret, nous cuisinons au feu de bois autant que possible, car c'est un mode de préparation qui donne un tout autre goût au plat. Il y a aussi beaucoup de choses que nous laissons fermenter et mariner, et cela marche plutôt bien.
Úplně jiný aroma těm jídlům hodně necháváme kvasit, nakládáme si hodně.
Et cela marche tellement bien que même les difficiles commissaires Michelin ont apprécié, c'est tout dire.
Le film Masaryk, auréolé de pas moins de 12 lions tchèques, ces statuettes qui récompensent le cinéma tchèque, sort ce jeudi dans les salles obscures de République tchèque. Une raison suffisante pour revenir dans cette rubrique historique sur le parcours de cet homme, Jan Masaryk, le fils du premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk, diplomate à Londres dans l'entre-deux-guerres, puis ministre des Affaires étrangères. Pour évoquer son destin tragique, l'historien Alain Soubigou, auteur notamment d'une biographie sur le père, a répondu aux questions de Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Jan Masaryk, le deuxième fils de Tomáš Garrigue Masaryk, il est né en 1886, donc c'est la génération de ces hommes qui sont envoyés à la guerre, et effectivement, lui participe à la Première Guerre mondiale dans le camp austro-hongrois. Quelle est son expérience de la guerre ?
L'expérience de la guerre, lui-même avouait, d'abord il n'a jamais tiré un seul coup de fusil, il a affirmé tout de suite après la guerre qu'il avait été en bataillon disciplinaire en Galicie. En réalité, son père avait fait le nécessaire pour qu'il ait une bonne paire de bottes. Et en fait, il s'occupait plutôt de chevaux. Il n'a pas fait une guerre vraiment très fatigante. Il a terminé la guerre, je crois, quand même sur le front italien, qui était un petit peu plus remuant. Néanmoins, il n'a été ni blessé, ni vraiment confronté aux horreurs de la Première Guerre mondiale que beaucoup de combattants, enfin que des dizaines de millions de combattants ont dû affronter. Je dirais même que son grand frère Herbert, lui, n'a pas survécu à la guerre. Il a été atteint par le typhus en 1915 et il en est mort. Donc enfin, si on peut comparer des trajectoires, le vécu de la guerre de Jan Masaryk est difficile, mais comme pour beaucoup, beaucoup de combattants, il n'a été ni blessé ni tué.
Alors au sortir de la guerre, Jan Masaryk, il occupe d'abord un poste de chargé d'affaires aux États-Unis. Et en 1925, il est nommé ambassadeur à Londres. Comment se fait-il qu'il se tourne comme ça vers une carrière diplomatique ?
C'est un peu inespéré, à vrai dire, parce que si l'on suit ses études pire que moyenne avant la Première Guerre mondiale, de se retrouver dans les services diplomatiques, c'est un peu inespéré. Comme vous dites, en termes de génération, il est jeune. Il est né en 1886, c'est-à-dire qu'il a 2 ans de moins que Benesch, qui était lui-même très jeune, ministre des Affaires étrangères, au sortir de la Première Guerre mondiale. Disons qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent dès lors que les fonctionnaires austro-hongrois ont quitté Prague et ont laissé toute une série de fonctions sans titulaire, d'une part, et d'autre part, la jeune République, qui fait transformer Prague de ville de province en capitale, a besoin de compétences un peu partout dans le monde pour la représenter dans des ambassades. Et c'est dans ce courant d'air que s'inscrit la trajectoire de Jan Masaryk.
Lors de cette nomination à Londres, certains parlent de népotisme. Quelle est la réalité d'une telle accusation ?
Le terme népotisme est tout à fait déplacé, il n'est pas adéquat. J'ai parlé d'opportunités qui s'ouvraient à toute une génération d'hommes compétents. Alors il n'avait pas, par exemple, le titre très recherché dans l'Autriche-Hongrie de Jüdel, c'est-à-dire de docteur en droit. Et il n'avait même pas la maturita. Alors, on peut imaginer qu'en effet, il aurait bénéficié d'appui, de facilité, mais jamais, au grand jamais, ni son père, Tomáš Masaryk, le président, ni Benesch, le ministre des Affaires étrangères, n'auraient envoyé à Londres quelqu'un d'incompétent, quelqu'un au-dessus de la tâche. Finalement, dans la partie, je dirais, mondaine de la fonction d'un ambassadeur dans l'entre-deux-guerres, il faut le dire, Jan Masaryk a été excellent à Londres.
Alors revenons peut-être sur le travail de Jan Masaryk à Londres. Vous parliez de ses qualités pour la vie mondaine, mais de ce relatif échec, de cet échec que constituent les accords de Munich, c'est-à-dire qu'il est à Londres, que le Royaume-Uni n'est pas favorable à venir en aide aux Tchécoslovaques menacés par les Allemands. On peut imaginer qu'effectivement Jan Masaryk a essayé de faire en sorte que Londres prenne parti pour les Tchécoslovaques. Pourquoi a-t-il échoué ?
Alors Masaryk avait le fils Masaryk, Jan Masaryk, en France on ne connaît pas encore assez. Jan Masaryk a un gros point fort dans le milieu londonien, c'est qu'il est parfaitement fluent English. Il parle parfaitement et de manière tout à fait limpide l'américain ou l'anglais, puisque c'est la langue de sa mère américaine. Et puis à la maison, dans son enfance, on parlait anglais très facilement. Masaryk, le père, parlait aussi très bien l'anglais. La capacité à jauger les hommes Les rencontres à domicile dans la famille des Masaryk avaient quand même habitué le jeune Masaryk à rencontrer des grands personnages de l'identité nationale tchèque. Voilà deux atouts, linguistiques et puis en termes de capacité de détection des vrais puissants de ce monde. Mais est-ce que l'échec final dans la mission à Londres en 1938 est redevable seulement à l'inefficacité ou le manque de capacité à peser sur les décisions d'un gouvernement? Rappelons-nous le milieu politique des années 30 en Angleterre, à Londres. C'est un milieu qui est largement contaminé par le nazisme. Yann Masaryk avait fort à faire dans un milieu qui n'était pas favorable d'emblée à la construction d'une démocratie fragile en Europe centrale, qu'était la Tchécoslovaquie. Donc voilà, je mesurerais beaucoup les critiques à l'égard ou à l'encontre de Yann Masaryk, compte tenu du milieu très très particulier, sans doute beaucoup plus difficile que le milieu parisien de la même époque, dans la deuxième moitié des années 30, au même moment.
Après les accords de Munich, il démissionne de son poste et il s'exile aux États-Unis. Puis après, quand la Tchécoslovaquie est totalement occupée par les nazis, il rejoint Londres où il va prendre le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement en exil d'Edvard Beneš. Quel rôle joue-t-il à Londres ?
D'abord, à Londres, il joue un rôle très important de go-between, d'intermédiaire, parce qu'il a les connexions. Ça fait une quinzaine d'années qu'il résidait à Londres. Il connaît tout le monde. C'est aussi quelqu'un, ça pourrait être un homme de dossier façon Beneš, c'est pas le cas. C'est vraiment quelqu'un qui organise des soirées amicales, des soirées de jeu, des soirées les Tchèques-Tipni, des soirées astucieuses où on s'amuse bien. Et ça me crée une très très bonne ambiance dans une période, la guerre, qui est tout sauf drôle. Et il a une capacité à mettre de son côté des personnages qui ne voit les causes démocratiques ou tchécoslovaques que d'assez loin. Et de ce point de vue-là, il a été irremplaçable.
Comment ça se passe dans ces années d'après-guerre? Comment Yann Masaryk voit et vit la montée en puissance des communistes?
Le tournant, c'est la proposition du plan Marshall au mois de mai 1947. Auparavant, la Tchécoslovaquie, beaucoup mieux que les autres pays de l'Europe centrale et orientale, réussit à maintenir des standards démocratiques, le Parti communiste est contenu, et des élections libres avec un pluripartisme fonctionnent à peu près. En mai 1947, lorsque le secrétaire d'État américain Marshall propose un grand plan d'aide qui, je vous le rappelle, concernait aussi l'URSS. Les uns après les autres, les pays du bloc de l'Est qui subissent déjà la pression de Moscou doivent renoncer à cette proposition américaine. Et la Tchécoslovaquie, avec la Pologne qui hésite aussi, est le dernier pays à devoir dire non. Et encore, et c'est ça l'occasion qui fait que Yann Masaryk prononce cette phrase cruelle, « Je suis parti en ministre libre et je reviens en valet de Staline », dit-il au mois de juillet 1947, c'est la question de l'acceptation ou du refus du plan Marshall. Alors la France, l'Europe de l'Ouest, l'Italie, etc. acceptent le plan Marshall, les pays d'Europe centrale se posent la question, l'URSS a interdit ce qui paraissait depuis Moscou et pour Staline être une inféodation à Washington. Disons que c'est le grand mérite de la Tchécoslovaquie d'avoir réussi pendant quand même 2 ou 3 ans à faire fonctionner une démocratie non négligeable. Bon, après février 1948, les choses, la messe est dite et les choses sont devenues claires. La Tchécoslovaquie tombe du côté de Moscou.
Après février 1948, la messe est aussi dite pour Yann Masaryk. Yann Masaryk est retrouvé mort le 10 mars 1948 au pied d'une fenêtre du ministère des Affaires étrangères. Et un mystère jusqu'à aujourd'hui va planer un petit peu sur sa mort, à savoir que les communistes ont dit qu'il s'était suicidé. Certains prétendent au contraire qu'il a été assassiné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de la mort de Yann Masaryk ?
La version communiste, c'est une version. Il y a la version de la police en 2003, enfin après plusieurs allers-retours, plusieurs variantes, des expérimentations de l'Académie des sciences, des physiciens qui ont essayé de comprendre la trajectoire du corps, etc. etc. Je crois qu'en fait, on ne saura probablement pas la vérité définitive au-delà d'un rapport de police qui dit un petit peu ce qu'il veut. Je crois que l'interprétation, elle se fait de manière plutôt philosophique. De deux choses l'une. Ou les communistes ont soulevé, parce que la fenêtre fenêtre était assez haute, soulever le corps de Yann Massaryk, vivant ou pas, et l'ont poussé par-dessus. Et c'est une horreur. Ça, c'est la première hypothèse, un assassinat direct. Ou, deuxième hypothèse, Yann Massaryk, soit sous la menace immédiate de gens qui frappent à sa porte, de gens qui lui voulaient du mal à la porte de son, de son appartement de fonction au ministère des Affaires étrangères, s'est jeté, ou bien en présence même des personnes menaçantes, ou sous la pression psychologique tout simplement. Il s'est jeté, c'était d'ailleurs l'hypothèse de son dernier secrétaire, Antonin Soum, qui disait qu'il avait voulu attirer l'attention de l'Occident sur ce qui était en train de se tramer par les communistes dans le pays. Et cette deuxième hypothèse d'un suicide n'est pas plus honorable pour les communistes. La pression psychologique a été au moins aussi puissante, si c'est cette hypothèse, que des mains assassines qui l'auraient poussé. Donc voyez, suicide ou assassinat, je crois qu'aucune hypothèse n'est bonne pour les communistes de l'époque. Et je crois que le fin mot, on ne le saura jamais vraiment, il n'y a pas de preuve tout à fait décisive dans un sens ou dans l'autre.
Enfin, Alain Soubigou, j'aurais une dernière question. C'est-à-dire que quand Yann Massaryk meurt, ses funérailles sont l'occasion d'un rassemblement d'une foule immense. Qu'est-ce qui explique que la popularité de Yann Massaryk était aussi importante ?
Il est certes populaire, mais pas si connu que ça. Il est populaire aussi parce que il a adressé à son pays depuis Londres des conversations appelées Vola Londine, Londres vous parle, et où il a entretenu la flamme de la résistance anti-nazie. Donc il a une certaine célébrité, mais jusqu'à un certain point. Ce qui se passe au moment des obsèques au mois de mars 1948, c'est que tous les Tchèques, et spécialement les Pragois qui sont venus à assister à ses obsèques, ont bien l'impression que c'est un tournant. C'est un peu de la République de son père, c'est beaucoup de la démocratie qui avait tant bien que mal fonctionné, même après la guerre, qui disparaît avec Yann Massaryk. Et c'est ça que les très très nombreux Pragois, quand on voit les photos avec le très long défilé sur la place de la vieille ville, c'est ça que, les malgré le froid, hein, en plein hiver, c'est cela que les Pragois et les Tchécoslovaques plus largement ont voulu honorer. C'est la fin d'une époque, la fin de la liberté, et il y a là une espèce de prescience des Tchécoslovaques et des Pragois. Ils savent qu'ils partent pour 4 décennies de période très très difficile.
Merci beaucoup Alain Soubigou d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie, et puis bien le bonjour à vos éditeurs.
L'historien Alain Soubigou était l'invité de Pierre Magnan dans ses chapitres de l'histoire consacrés donc à Yann Massaryk. C'est la fin, chers amis, du programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinkova au micro vous remercie de votre attention. Portez-vous bien. Au revoir. À demain.